Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui un épisode exceptionnel sur un sujet très douloureux, mais qui concerne énormément d'enfants, énormément de familles. Aujourd'hui, on va parler de la lutte contre l'inceste. Comment mieux protéger les enfants? Comment mieux protéger nos enfants, les enfants de la société? Comment toute la société doit se sensibiliser, prendre en compte, prendre à bras le corps ce sujet pour lutter contre ce véritable fléau, sujet important, et vous allez le voir, vous allez le comprendre tout de suite, des invités exceptionnels pour en parler. C'est parti. Édouard Durand, bonjour.
Bonjour.
Ancien juge des enfants pendant 17 ans, aujourd'hui juge des affaires familiales, auteur notamment du livre « Défendre les enfants au seuil » dont on va parler dans cet épisode. Depuis janvier 2021, vous co-présidez avec Nathalie Mathieu la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, commission créée l'an dernier après la multitude de témoignages via le hashtag MeTooInceste qui ont révélé au grand public l'étendue de ce fléau. Hashtag qui a suivi la publication du livre « La Familia Grande » de Camille Kouchner, un livre, aviez-vous dit à l'époque, qui a produit de la conscience collective. Camille Kouchner, bonjour.
Bonjour.
L'autrice donc de ce livre, producteur de conscience collective, La Familia Grande, sortie au Seuil le 7 janvier de l'année dernière, qui ressort aujourd'hui en poche, livre où vous racontiez l'inceste subi par votre frère, victime de votre beau-père, livre surtout où vous racontiez la mécanique de ce crime terrible, mais banal, atroce, mais tabou. L'inceste, donc, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Avec vous aujourd'hui, on ne va pas revenir, Camille Kouchner, sur l'histoire de votre famille, le récit fait dans le livre. On va parler de l'étape d'après, ce qui a suivi la publication de ce livre, ce que ce livre a déclenché dans notre pays, de la libération de la parole aux conséquences concrètes, dont le but n'est autre que de mieux protéger les enfants. Et on va voir qu'il y a encore beaucoup à faire. Édouard Durand, est-ce qu'on peut commencer par rappeler l'impact qu'a eu la sortie de ce livre, La Familia Grande, dans notre société?
Un impact très important, peut-être fragile aussi, et il faut rester vigilant pour que la conscience collective générée par ce livre qu'a écrit Camille Kouchner se poursuive et s'amplifie même encore. Mais un impact très positif. Je pense que Camille Kouchner a protégé beaucoup d'enfants réels qui étaient en danger et qui, parce que elle a su susciter des émotions et de la pensée, de la colère et de l'action, sont des enfants qui aujourd'hui ont été mis en sécurité. Elle a, par ce livre, généré une impulsion, y compris dans la loi, exigé la loi du 21 avril 2021, avec ce crime spécifique et le seuil d'âge à 15 ans, hors des cas d'inceste, et à 18 ans dans les cas d'inceste, en deçà duquel l'infraction d'agression sexuelle ou de viol sont constituées.
Dans les très nombreux témoignages que vous recevez avec cette commission, plus de 12 000 ou 13 000 à l'heure où on enregistre ce podcast, on vous parle du livre La Familia Grande?
Oui, bien sûr. Ici même, à la commission, dans les réunions publiques, les personnes qui nous écrivent ou qui appellent la plateforme téléphonique font référence à leur histoire et ce qui, dans leur histoire, les a autorisés à penser que ce qu'elles vivaient était une transgression de la loi. Et La Familia Grande en fait partie. Il y a les livres de Muriel Salmona aussi, qui ont aidé ces personnes à se retrouver comprises dans ce qu'elles vivaient, dans leur ressenti de personnes adultes ayant été confrontées à la violence dans l'enfance. Et il y a La Familia Grande aussi.
Camille Kouchner, vous aviez déclaré à la sortie du livre l'an dernier que vous espériez que ce livre n'aiderait pas à la libération de la parole, mais à la prise en charge des victimes. La libération de la parole, je crois qu'il y a eu. Est-ce que l'objectif de la prise en charge des victimes est atteint, partiellement atteint? Comment vous jugez ce qui a été fait depuis un peu plus d'un an?
Je ne peux que me réjouir de cette prise de conscience. Après, on n'y est pas. Donc, je suis très heureuse que la Civise qu'Édouard Durand dirige existe et qu'elle travaille comme elle travaille, et donc je suis je peux que me réjouir de ça. Je ne peux que me réjouir de l'adoption de la loi d'avril 2021. Maintenant, les outils juridiques, à mon avis, sont pas encore posés suffisamment clairement et de manière suffisamment efficace. Quant à la libération de la parole, moi, j'ai souvent dit que c'était des termes qui me convenaient pas totalement, parce que je pense que c'est faire reposer une responsabilité sur les victimes qui est beaucoup trop lourde.
Vous parlez de libération de l'écoute?
Oui, et je suis pas sûre qu'on y soit totalement non plus. Moi, je suis optimiste, donc il faut faire le chemin. Le chemin reste à faire, mais il faut le faire.
Vous êtes devenu le symbole de quelque chose avec votre livre. Vous aussi, on continue aujourd'hui de vous écrire, de vous parler, d'entrer en contact avec vous?
Oui, je reçois beaucoup de courriers, je reçois beaucoup de mails, et il y a beaucoup de partages. Et je suis très touchée d'ailleurs que les gens me fassent confiance, parce que c'est très difficile de dire. Et donc je sais qu'ils le font en confiance. Après, je suis pas sûre d'être le symbole de quoi que ce soit. Il y a d'autres personnes qui ont écrit avant moi, et je pense que je suis arrivée à un moment où voilà, la société était peut-être prête à s'ouvrir à ces questions-là. Mais Christine Angot a écrit avant moi, Adélaïde Bon a écrit avant moi, et puis Vanessa Springora, même s'il s'agit pas d'inceste, toutes ces questions se rejoignent. Donc, ce que je veux dire, c'est que le collectif et la permanence et tout ça est important. C'est pas un livre, c'est pas une histoire, parce que sinon c'est bon.
Alors c'est pas un livre, même si celui-là a fait évidemment, mais vous le savez très bien, énormément parler. On pourrait aussi parler du livre de Patrice Evra, le joueur de foot, ou dans un autre registre, peut-être touchant aussi d'autres personnes, parlant peut-être aussi aux plus jeunes, puis avec un discours qui était différent. C'est important d'inciter tout le monde à prendre la parole, parce que même si on ne parle pas de libération de la parole, il faut quand même inciter les gens à prendre la parole, et ça passe notamment par des personnalités sur les réseaux sociaux.
Je sais pas, moi je peux pas dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent, parce que c'est tellement difficile et c'est tellement personnel, c'est tellement intime. Voilà, chacun fait comme il peut. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par d'autres biais? Je voudrais aider à protéger, et certainement pas donner des injonctions supplémentaires à ces personnes qui ont déjà suffisamment souffert. Ouais.
Emmanuel Macron avait pris la parole, bien sûr, dans la foulée de la sortie de ce livre. On l'écoute.
Aujourd'hui, la parole partout en France se libère. Sur les réseaux sociaux, dans les livres, les journaux, le silence construit par les criminels et les lâchetés successives, enfin, explose. Il explose grâce au courage. Le courage d'une sœur qui n'en pouvait plus de se taire. Puis ces derniers jours, le courage de milliers d'autres témoignant de leur vie brisée dans le sanctuaire de leur chambre d'enfant, de leurs enfances volées lors de vacances en famille ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer. Et à vous qui vous êtes libéré d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul.
Édouard Durand, vous dites que la parole des victimes d'inceste ou de pédophilie, elle existait bien sûr depuis des années, mais la société mettait des œillères. Comment faire justement pour s'enlever ces œillères au point de vue pas individuel, pas personnel, mais de la société?
C'est d'abord une réalité. Il faut se dire et que les enfants ou les personnes adultes, les femmes victimes de violences sexuelles aussi bien, ont montré les violences qu'elles subissaient, qu'ils subissaient, ont demandé de l'aide, et que la société n'a pas répondu. Et que parfois, ce sont ces enfants même qui sont rejetés de la famille, qui sont exclus, qui sont mis à l'écart. On se souvient que à la fin des années 80, Eva Thomas, lorsque elle publiait Le viol du silence, était confrontée au mépris en direct à la télévision, à la banalisation, à la dénégation, à la dénégation de la violence intrinsèque du viol incestueux.
C'était même une blague sur les plateaux de télévision. Je veux dire, on en rigolait. Il y avait presque de l'ironie.
Ce médecin nous dit, votre mission est intéressante, je suis amoureux de ma fille adoptive, ma famille le sait, l'accepte, pourquoi semez-vous la zizanie dans les familles? Un ingénieur qui nous dit, j'ai des relations quotidiennes avec ma fille de 13 ans, pourquoi empêchez-vous les gens d'être heureux? Un agent technique qui dit, on commence, où commence et finit l'inceste, j'ai une fille de 10 ans que j'aime caresser et je me demande si mes impulsions sont coupables.
Et ce qui change, c'est que nous sommes en train de comprendre que la maison n'est pas que le lieu du privé, que la loi commune doit y régner aussi, que l'ordre public ne s'arrête pas à la porte de la maison. Et ça, c'est très important. Et c'est aussi quelque chose de fragile, parce que il faut que la société inspire confiance aux enfants victimes de violences sexuelles. Et je ne vois qu'un seul moyen d'inspirer confiance à un enfant. C'est de lui dire par anticipation, si tu révèles des violences, je te croirai. Et par anticipation, si je te crois, je te promets que je te protégerai. Et manifestement, l'humain préfère se donner des cautions pour ne pas croire et pour ne pas protéger. Il préfère faire courir le risque à l'enfant.
Alors pour quelle raison ?
Parce que c'est dur de voir la violence dans sa tête. Et c'est dur de se dire que la maison n'est pas que le lieu du privé et que l'ordre public ne s'arrête pas à la porte de la maison. Et que c'est plus facile de dire que je peux me tromper, ça fait plus de dégâts d'agir que de ne pas agir. D'autres l'ont écrit. Dans les années 90, un pédopsychiatre, le docteur Patrick Ayoun, disait « Mais vous verrez, bientôt, on va vous dire que les enfants mentent, que leurs psychologues mentent. On va vous dire que c'est plus grave de protéger les enfants victimes d'inceste que l'inceste lui-même. » Et nous y sommes. Cette parole était prophétique.
Camille Kouchner, c'est vrai que chez les victimes, il y a souvent ce discours de pas oser prendre la parole, de peur de casser un équilibre familial forcément précaire. C'est aussi un des enjeux d'expliquer aux victimes que, d'expliquer aux victimes, il n'y a pas d'injonction bien sûr, mais il faut qu'on réussisse à tous comprendre que la victime qui va prendre la parole, c'est pas elle qui brise l'équilibre familial, c'est l'auteur de l'inceste avant. Et j'ai l'impression que déjà ce discours de dire cette chose qui paraît toute bête, c'est déjà la base.
Mais vous pouvez pas savoir comme c'est dur en fait, parce que c'est pas une histoire d'équilibre, c'est une histoire d'amour familial. Et donc vous êtes, alors moi je suis pas victime directe, mais quand même j'ai été mise en situation de d'avoir à dire du mal de gens que j'aimais profondément. Donc c'est au-delà de l'équilibre. C'est que vous n'êtes pas en train de dire quelque chose sur une personne que vous avez à peine rencontrée ou oui, c'est plus que l'équilibre. Vous êtes pris au piège. C'est ça l'inceste, c'est que vous êtes complètement pris au piège. Et même quand on est absolument persuadé que de la douleur, de la souffrance, de la réalité des choses, malgré ça. Et c'est même une histoire de cerveau qui disjoncte, quoi. Vous ne pouvez pas le penser. Et ça reprend un peu votre réponse tout à l'heure. C'est-à-dire que comment ça se fait, alors la société, je ne peux pas parler pour la société, mais que, en tout cas les gens du cercle le plus proche ne sont pas capables de mettre en avant tout de suite la protection de l'enfant. En tout cas, moi, je parle en tant que adolescente à l'époque. Bien sûr que je savais qu'il y avait quelque chose qui était absolument néfaste, mais ça voulait dire que j'étais aux prises avec des liens d'amour qui étaient beaucoup trop dur. Mmh. Et ça l'est aujourd'hui encore. Ça l'est des années plus tard. Alors sur le moment, c'était pas, je me disais pas, je vais déséquilibrer nos rapports. Mmh. Je me disais, je les aime tellement. Mmh.
Donc on est déchiré dans ces moments-là, comme vous avez raison, on ne peut pas le comprendre, je pense.
Mais même en amont, c'est ça, c'est pas qu'on est déchiré, c'est qu'on ne peut même pas se le figurer, en fait. C'est-à-dire que ça devient une espèce de truc évanescent, bizarre, on le sait sans le savoir, on ne veut pas. C'est le cerveau lutte, quoi, contre quelque chose que vous savez absolument, mais simplement se le figurer, c'est autre chose. Et se figurer cette gravité-là. Et puis en plus, quand vous êtes adolescent, enfant, vous pouvez pas savoir les dommages que ça va faire plus tard. Vous savez rien, en fait. Et puis vous êtes élevé par vos parents, et c'est vos parents qui vous apprennent à dire. Et là, ils vous ont appris les mots, ils vous ont appris à nommer les choses, et ça ne se nomme pas. Et avec leur comportement, ils vous apprennent que ça ne se nomme pas. On ne le nomme pas, on ne doit pas le nommer. Alors, pas de manière directe, mais tout leur comportement montre que ça, il ne faut pas. Bon, le déséquilibre, c'est... Aujourd'hui, moi, je me dis, je déséquilibre largement les choses, mais je décide que ce n'est pas grave, d'une certaine manière.
Christine Angot, vous en parliez tout à l'heure, qui évidemment raconte aussi dans ses livres ces sujets. Elle dit que c'est évidemment intimement difficile d'aborder ces thèmes et que souvent les enfants ou les adolescents vont lancer comme ça des toutes petites perches et toute la difficulté pour l'entourage, c'est de réussir à les saisir, ces perches.
Mais c'est ce que disait Édouard Durand tout à l'heure, c'est que les signaux, ils existent.
Les signaux existent.
Ouais. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Les signaux existent. Et que ce soit pour des amis, que ce soit, les signaux existent. Ça se manifeste de manière... c'est le corps qui se manifeste, ou alors c'est une tristesse qui se manifeste, ou à l'inverse de la tristesse, une espèce de surexcitation. Mais ça se manifeste. Ça, même moi, je le voyais, alors que j'étais petite.
Ça aussi, j'imagine que vous devez le voir et le ressentir et l'entendre dans les très nombreux témoignages. C'est tout ce qui va se manifester, soit sur le moment présent, soit des années, voire des dizaines d'années plus tard.
Oui, y compris l'effet de sidération dont Camille Kouchner vient de parler, pour l'enfant lui-même ou l'adulte qu'il est devenu, et pour l'entourage. Je pense que ce qui est important d'avoir présent à l'esprit aussi, c'est ce que le collectif féministe contre le viol appelle la stratégie de l'agresseur. On voit bien comment l'agresseur, pour assurer son impunité, pervertit le langage, Camille Kouchner vient de le dire d'une manière extrêmement nette, et contamine le groupe dans son ensemble, évanescent, brouillé, pour dire que les repères qui ont été appris perdent leur sens et leur légitimité. Et cela s'inscrit par une action continue de l'agresseur, qui a deux objectifs. Passer à l'acte, prendre possession du corps de l'autre et assurer son impunité, en ayant un effet direct sur l'enfant victime lui-même et sur l'entourage immédiat, jusqu'à la société dans son ensemble, contaminée par la stratégie des agresseurs, faible par rapport à cette stratégie, et parfois même complaisante, il faut le dire aussi. Et c'est pour ça qu'il faut toujours un tiers. Ce que vient de dire Camille Kouchner, ce sont vos parents qui vous apprennent à dire. Et ça, ils vous font comprendre que ça ne se nomme pas. C'est une parole extrêmement puissante, et qui dit bien à quel point il faut qu'il y ait un tiers qui nomme. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui dise ce que la loi permet, ce que la loi interdit, et que ce qui se passe est interdit. Nous l'entendons aussi dans les nombreux témoignages qui nous sont donnés ici à la Civise, l'importance d'un tiers qui a nommé le réel et l'écart entre la loi et le réel. C'est très important. Mais, j'insiste à nouveau, ce tiers doit aussi aller vers l'enfant avec cet impératif inconditionnel qui est « si tu me dis oui à la question que je te pose, je te crois et je te protège ».
Et je te protège. Ça peut être qui le tiers ?
Ça peut être vous et moi. Ça peut être les tiers professionnels les plus proches des enfants en général. Et on pense à l'école, bien sûr, on pense aux médecins, on pense aux éducateurs, aux psychologues. Mais l'école est un espace extrêmement important de repérage des enfants qui, dans la maison, subissent la violence.
Est-ce que les profs sont suffisamment, voire même juste un tout petit peu, formés pour accueillir ces paroles-là ?
Les professeurs ont sur leurs épaules à la fois beaucoup de responsabilités, beaucoup d'attentes de la société, trop peu de moyens, bien sûr, et des injonctions paradoxales. Parce que dans la protection des enfants victimes de violences sexuelles et la lutte contre l'inceste, nous envoyons encore beaucoup d'injonctions paradoxales. Parle, mais je ne te croirai pas. Repérez, mais ne signalez pas. Signalez, mais vous serez poursuivi. Protégez vos enfants, mais nous dirons que vous serez manipulatrice.
Signalez, mais vous serez poursuivi, ça c'est intéressant. Ça, il est notamment question des médecins qui vont signaler des cas suspects. Entre guillemets, je mets bien sûr des grosses guillemets. Ça, c'est une des propositions très concrètes de votre commission, c'est supprimer cette loi qui paraît absurde.
Oui, c'est dire les choses de manière beaucoup plus claire, en référence encore à ce que Camille Kouchner vient de dire sur le langage et la capacité de nommer les choses. Si les règles ne sont pas claires face à un problème aussi grave et déstabilisant et sidérant même que le viol d'un enfant, il faut que les règles soient claires. Et il faut que, spécialement s'agissant des médecins, et notamment des médecins qui exercent seuls dans leur cabinet libéral, aient des règles qui les protègent pour qu'ils puissent protéger les enfants. C'est pourquoi nous avons dit deux choses indissociables. La société peut exiger de vous que vous signaliez les situations d'enfants en danger ou victimes de violences sexuelles. En contrepartie, la société vous protégera des instrumentalisations perverses des procédures disciplinaires. C'est normal qu'il y ait cette contrepartie et que cette loi soit claire. On dit, si le médecin a la certitude que l'enfant est victime de violences sexuelles, il se doit de faire un signalement. S'il a des suspicions, il doit apprécier en conscience ce qu'il doit faire et peut-être qu'on lui reprochera une immixtion excessive dans l'intimité des familles. Mais face à un enfant réel, quelle est la frontière entre la certitude du viol et la suspicion du viol? Il n'y a pas que les parents en difficulté qui ont un enfant imaginaire dans la tête. Parfois, la société a aussi un enfant imaginaire dans la tête. Mais le médecin, face à l'enfant réel, il faut qu'il ait des règles claires pour agir. Et il y a celle-ci, l'obligation de signaler.
Et là, c'est pas le cas, surtout que le médecin est souvent avec l'enfant, mais avec le parent qui est à côté. Et donc, pour lui, la situation est intenable. Vous parlez de société complaisante vis-à-vis des auteurs. Vous êtes d'accord avec ça? Vous employeriez le même mot? La société peut être complaisante par moment?
Qu'est-ce qu'on entend par société là? Est-ce qu'on parle des institutions ou est-ce
que
on parle
voilà que la société, ouais.
Voilà, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un mouvement là quand même qui est de prise de conscience et puis de soutien très très grand. Donc j'aurais du mal à incriminer la société. Je trouve que ça bouge, ça peut voilà. Maintenant là où on se retrouve, c'est que je pense qu'il faut que ça se transforme et que ça se transcrive dans les institutions, leurs moyens d'action, etc. Ça oui. Mais là pour le coup, il y a un mouvement social. Oui. Et une vraie prise de conscience.
Alors, il y a le mouvement social d'une part, et puis après, il y a les faits. Et effectivement, les institutions. Et là, est-ce qu'on peut estimer que les institutions sont aujourd'hui encore complaisantes?
Écoutez, la CIVIS a été mise en place. Moi, je trouve que le pré-rapport, le travail qui est fait, et voilà, c'est pas parce qu'on est ensemble. Ou alors, c'est pour ça que... là, moi, je suis ravie de pouvoir intervenir à deux. Ça me donne beaucoup d'espoir, mais c'est dans un objectif qui est de transformer le droit. Donc, ça veut... implique que le droit n'est pas suffisant.
Surtout que juste derrière vous, au-dessus de vous, il y a des affiches, parce qu'on va tout dire, on enregistre dans votre bureau, dans votre commission, monsieur le juge, et je vois au-dessus, chaque année, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles, famille, proche, entourage, vous aussi, vous pouvez témoigner, 160 000 enfants et de tête, 1000 condamnations.
Oui, c'est de cet ordre-là, et entre les deux, 70% de classement sans suite. Voilà une autre injonction paradoxale. Il faut déposer plainte. Mais si vous déposez plainte, à 70%, la plainte sera classée sans suite.
Alors, je ne suis pas du tout juriste, comme c'est votre cas à tous les deux, mais j'ai l'impression qu'il y a un sujet autour de la présomption d'innocence. Je sais que ça nourrit de grands débats, mais est-ce que la question doit être posée? La présomption d'innocence systématique, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que 70% des affaires sont classées sans suite?
Moi, je suis magistrat. Bien sûr, la présomption d'innocence, c'est un principe fondamental de la justice et de l'état de droit, de la démocratie. Et comme magistrat, ce n'est certainement pas moi qui vais le remettre en cause. Il me structure, il me permet d'être juge, comme les autres principes de l'action juridictionnelle, l'impartialité, la charge de la preuve, pour ne citer que ces deux principes. Le problème n'est pas le principe en lui-même, mais l'interprétation que nous en faisons. Et il me semble... que nous avons tendance à interpréter nos principes fondamentaux, notamment la présomption d'innocence, de sorte qu'ils viennent faire écran entre l'enfant et la protection. Qu'au nom de ces principes, nous disons 70% de classement sans suite, parce que c'est parole contre parole, parce qu'il me manque des éléments dans mon dossier pour poursuivre et pour protéger l'enfant. Et ceci est contraire à ce que Ernestine René appelle la culture de la protection, qui est le primat de la protection de l'enfant qui révèle des violences. Or, nous voyons qu'il y a beaucoup d'actions qui nous paraissent tout à fait légitimes et qui pourraient s'interpréter de la même manière comme contraire à la présomption d'innocence. Dans notre avis du 27 octobre et nos conclusions intermédiaires, nous avons fait des préconisations, notamment que lorsque des poursuites pénales sont enclenchées à l'encontre d'une personne pour des faits d'inceste, son droit de visite avec l'enfant doit être suspendu de plein droit. Le juge d'instruction a mis en examen, le tribunal correctionnel est saisi pour juger la personne pour agression sexuelle incestueuse, pour viol incestueux. Il faut suspendre le droit de visite et l'autorité parentale. On dit que c'est contraire à la présomption d'innocence, mais ça n'est pas plus contraire à la présomption d'innocence que la détention provisoire. Et pourtant, personne ne dit que la détention provisoire est contraire à la présomption d'innocence. Là, il s'agit de la protection des enfants.
Vous pensez que quand le procureur estime, enfin, dans un monde idéal, il faudrait que lorsque le procureur estime avoir suffisamment d'éléments pour engager un procès, là on devrait pouvoir suspendre l'autorité parentale.
La question est, qui veut-on protéger ? La question est, à qui fait-on courir le risque ? Et si c'est l'enfant que nous voulons protéger, c'est à cet objectif que nous devons donner la priorité. Ce n'est pas rien de faire l'objet d'une enquête pénale pour viol. Ce n'est pas rien d'être mis en examen par un juge d'instruction pour viol incestueux. Ce n'est pas rien d'être convoqué devant un tribunal correctionnel pour agression sexuelle incestueuse. Et si on n'est pas dans ces 70% de dossiers qu'on a considérés comme insuffisants pour qu'il y ait des poursuites, mais dans les 30% qui restent, alors on peut faire le choix de la protection de l'enfant.
Dans votre carrière, vous avez dû en voir des histoires qui vous empêchent de dormir le soir. Quand vous avez conscience qu'un enfant va retourner chez son père, chez son bourreau.
Oui, bien sûr. Bien sûr, en 17 ans de fonction de juge des enfants ou de juge aux affaires familiales, j'en ai vu des enfants souffrir. Et ce qui m'empêche de dormir, comme vous dites, sont les décisions insuffisamment protectrices que j'ai prises. Mais j'ai vu aussi des enfants grandir, des enfants mis en sécurité. Et ça, c'est ce qui permet de continuer à agir. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que il y a dans la loi ce qui devrait permettre de faire le choix de la protection. Or, la loi est encore insuffisamment mise en œuvre, ou mise en œuvre de façon trop aléatoire. Et c'est pour ça qu'il faut ce que j'appelle une législation plus impérative. C'est pour ça qu'il faut que ce qui va déterminer l'action des professionnels, ce qui va consolider la chaîne de la protection, soit défini de façon plus nette par la loi comme une priorité sociale.
Je souhaiterais vous faire écouter un témoignage à tous les deux. Il y a quelques jours, j'ai mis sur les réseaux sociaux de l'émission de la Maison des Maternelles qu'on allait organiser une émission ensemble pour justement faire appel à des témoignages. Ça ne va pas vous surprendre, j'en ai reçu des centaines et des centaines, beaucoup qui se ressemblent, beaucoup d'anciennes victimes de leur père ou de leur grand-père durant l'enfance. Et j'ai reçu aussi le témoignage d'une maman qui illustre bien ce que vous connaissez bien mieux que moi, l'impunité, le manque de décision, voire la protection, le manque de protection dont bénéficient les auteurs. Je vous propose qu'on l'écoute. C'est un témoignage évidemment anonymisé, même si c'est très récent puisque les faits dont on va parler se seraient passés en février dernier. On écoute.
Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 37 ans et je suis la maman de Jade, 3 ans et demi, et Charline, 7 mois, et je vis avec mon conjoint et mes deux petites filles dans les Hauts-de-Seine. Notre fille Jade a fait sa rentrée en école maternelle en septembre 2021, et en mois de février 2022, elle nous a fait des révélations. Ça faisait plusieurs semaines que son comportement était pas normal. Elle voulait plus nous parler, elle s'isolait dans sa chambre, on pouvait plus lui faire prendre son bain, elle voulait plus prendre de bain alors qu'avant elle adorait ça. Elle faisait des colères pour tout, mais vraiment pour tout, n'importe quoi. Elle n'avait jamais été comme ça, elle avait toujours été très douce, très facile. Et puis un jour, il y a eu une colère de trop. Et ça s'est passé, elle sortait du bain, on avait dû un peu la forcer à se laver parce que ça faisait trop longtemps qu'elle n'y avait pas été. Au moment où on l'a essuyée, elle s'est mise à hurler « aïe, aïe, aïe ». On lui dit « mais qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai mal au trou des fesses, j'ai mal au trou des fesses ». Elle l'a répété plusieurs fois, je me suis dit « c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc je la prends dans mes bras et je lui dis « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal ? Est-ce que t'as touché ? Est-ce que... Dis-nous, quoi, si t'as quelque chose à nous dire, on est là ». Et donc c'est là qu'elle a dit « bah oui, on a mis un doigt dans mon trou des fesses ». Donc là, j'appelle mon conjoint qui était juste à côté. On a installé notre fille sur son lit. On a essayé de lui poser des questions de manière ouverte pour avoir plus de détails. On a pris sa poupée, on lui a demandé de nous mimer ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, où, à quel endroit. Et elle nous a donné vraiment beaucoup de détails. Qu'un enfant de son âge ne peut pas inventer, ça c'est clair. Et ensuite, je note tout ce qu'elle a dit. Je prends un carnet, à partir de ce jour-là, je note tout ce que j'observe. Dès le lendemain matin, j'ai la pédiatre au téléphone qui m'explique un petit peu la procédure. Donc je vais porter plainte au commissariat, j'y vais toute seule, il me garde pendant 3 heures, il me pose des questions. La brigade des mineurs nous rappelle, nous convoque pour l'audition de mon conjoint et de notre fille quelques jours plus tard. Mon conjoint a dû être entendu pendant 2 heures environ, ma fille 15-20 minutes, c'est très rapide pour les petits. Et elle, alors ils lui ont posé des questions directes, hein, ils lui ont demandé, des choses tellement directement qu'elle, elle a rien dit, elle l'a senti, et de toute façon, à ce moment-là, toutes les personnes qui étaient inconnues pour elle, c'était un danger, en fait. Elle ne nous quittait pas des yeux, elle ne nous lâchait pas d'une semelle. On est un peu déçus qu'elle n'ait pas parlé, mais d'un autre côté, on la comprend. On continue à l'accompagner, on la croit, forcément, c'est notre fille. Et puis ce qu'elle nous a dit, dans les détails, enfin, c'est impossible d'inventer quelque chose comme ça. Donc ensuite, quelques jours plus tard, on est convoqué par le pédiatre judiciaire. L'examen, il est très très froid. Le pédiatre ne lui adresse quasiment pas la parole, mais il est quand même très respectueux. Et donc, c'est très bizarre pour elle. Et je suis très mal à l'aise de lui infliger ça. Et en même temps, je lui explique que, ben, il le faut. Il faut qu'on voit s'il y a des choses à réparer ou pas, physiquement. Donc, pas de lésion. Mais en même temps, pour nous, ça a été impossible de savoir quand cette chose est arrivée. Est-ce que ça s'est passé une fois, deux fois, dix fois ? Impossible. Je relance une fois, deux fois le commissariat qui auditionne la personne en question. Donc c'était l'animateur du centre de loisirs de son école. Et j'ai un petit feedback quand même de la brigade des mineurs qui me dit il a été on l'a auditionné, non, tout est normal, c'est un gentil garçon, il est venu avec sa bosse. Ils nous maintiennent qu'il n'a jamais été seul avec un enfant. C'est impossible. Il y a des process et aucun animateur ne peut être laissé seul avec un enfant. Et ils parlent même... Alors ça, c'est... Enfin, le mensonge qui m'a fait sortir de mes gonds, c'est qu'ils ont fait croire que la TSEM était en permanence aussi avec eux, alors que non, pas du tout. Elle n'est pas là l'après-midi au centre de loisirs. Et ensuite, plus rien. C'est pas creusé. Les autres enfants ne sont pas auditionnés. La directrice de l'école, a priori, n'a pas été auditionnée. Pas la maîtresse, personne. Et quand j'ai rappelé là... Donc ça se passe en février. J'ai dû rappeler il y a 3 semaines, 1 mois. Et ils m'ont dit, non, mais de toute façon, madame, vous n'aurez pas de nouvelles. Le dossier, il est passé entre les mains de la magistrate de Paris. Et elle va mettre au moins 6 mois à vous répondre. Et dans 6 mois, vous saurez si l'affaire est classée ou pas, en gros. S'il y a des suites ou pas. Je me sens tellement pas considérée, je me sens mal, je me sens impuissante parce que je ne peux pas répondre à un policier, parce que ce sera intrusif si je continue à poser des questions, parce qu'il y a une autorité qui fait que je me sens dominée en fait par ce système et impuissante alors que voilà. Donc l'affaire a été étouffée. Au niveau de l'école, on a juste pu contacter la maîtresse pour lui expliquer pourquoi Jade avait été sortie de l'école pendant 3 semaines, parce qu'on a dû s'occuper d'elle. Plus de centre de loisirs pour notre fille. Donc on a dû se réorganiser. On a une nounou d'enfer qui a cherché notre fille tous les jours à l'école pour qu'elle soit en sécurité tous les après-midi avec elle.
Merci infiniment à cette maman, Camille Kouchner. Peut-être commençons par parler de ce qu'elle appelle le pédiatre judiciaire, une des choses qui choque dans ce témoignage, enfin qui choque les gens qui, comme moi, ne sont pas spécialistes, c'est pourquoi le pédiatre judiciaire a besoin d'ausculter, de manière très concrète et précise, cette petite fille de 3 ans et demi.
Moi, je ne suis pas du tout experte de tout ça. Ça me choque aussi et je voudrais qu'on protège cet enfant et qu'on protège aussi cette maman qui doit souffrir beaucoup.
Il y a un petit peu le côté Erin Brockovich. Là, on se bat. J'ai l'impression que cette maman, elle se bat un peu seule contre la police, contre la justice, essayer d'avoir la magistrate au téléphone. Est-ce que ça vous surprend ce qu'on entend? Non.
Écoutez, vous me permettrez de pas commenter une affaire en cours en tant que magistrat, d'abord. Et ensuite, ce que je dirais. C'est que les professionnels ont leurs contraintes et leurs impératifs, que la procédure pénale a ses règles, que cela ne doit pas empêcher tous ces professionnels, souvent animés d'excellentes intentions, personne ne peut le contester, d'être vigilants à ce que les procédures se déroulent à hauteur d'enfant, en prenant en compte les besoins, les émotions, la peur, respecter l'intimité d'un enfant. Mais vous avez raison, parmi tous les milliers de témoignages que nous avons reçus, nombreuses sont les personnes qui nous disent à quel point la procédure les a traumatisées. À quel point elles ont eu l'impression, alors qu'elles avaient été victimes de violences sexuelles, d'être traitées comme des accusées pendant la procédure. Ils avaient l'impression que les examens médicaux étaient comme un deuxième viol. Elles le disent comme ça. Et il est possible de se mettre davantage à hauteur d'enfant.
Comment ?
Eh bien, en essayant
notamment
de...
Notamment là, elle raconte le premier rendez-vous, c'est avec la police. Et effectivement, cette petite fille, il n'y a aucun mot qui sort. Elle n'a que 3 ans, elle est toute petite. Elle sort.
Si je peux intervenir et faire le point avec une question que vous avez posée, par exemple, cette idée de législation plus impérative, moi je partage absolument ce point de vue-là. Mais on en revient à la question des mots. Si vous dites à un enfant, c'est interdit, eh ben, vous lui faites très peur. Parce que quand on est enfant, on croit qu'on est coupable. Donc, se mettre à hauteur d'enfant, c'est trouver autre chose, par exemple, que de dire c'est interdit. Ou alors dire, il n'a pas le droit de faire ça. Mais se mettre à hauteur d'enfant, c'est essayer de voir qu'on ne sait rien. Et on ne sait pas ce qui est grave et surtout ce qui relève de notre responsabilité ou pas. Donc moi, je pense qu'il faut déjà, en amont, essayer de faire comprendre à l'enfant qu'il n'y est pour rien. Et qu'il souffre et qu'on prend en considération sa souffrance. Moi, c'est quelque chose... Enfin, pardon, j'interviens comme ça, mais c'est parce que c'est un... Il y a beaucoup de discours qui m'ont terrorisée, moi. Mais terrorisée. Alors que je n'avais pas subi de violence sexuelle. Mais les mots que j'entendais, qui étaient interdits, sanctions, prison... Tout faisait que je n'allais pas dire. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on n'était pas à hauteur d'enfant. Dire que vous allez envoyer votre père en prison, c'est insupportable. Donc, ce n'est pas le discours qu'il faut avoir. Je ne crois pas du tout. Dire, il vient de commettre une faute. Tu n'y es pour rien. Ça, c'est se mettre à hauteur d'enfant, je pense. Y compris à 3 ans et demi.
Y compris à 3 ans et demi. Et donc là, les premiers à avoir ces... Bon, évidemment, il y a les parents, quand ils vont accueillir, dans le cas de l'affaire dont on parle, c'est les parents, au moment où ils accueillent, j'ai l'impression qu'ils ont bien réagi. En tout cas, c'est la manière dont elle le raconte. Si tant est qu'on puisse bien réagir dans ce genre de situation. Mais c'est aussi la police, les premiers avec qui ils vont en parler. Et on en revient à la formation des policiers. Je crois que les choses évoluent, mais peut-être pas assez vite.
Il faut dire que les choses évoluent positivement. Il faut saluer tout le programme de formation des militaires de la gendarmerie nationale au recueil de la parole de l'enfant victime. Il faut que la chaîne de la protection se consolide à tous les niveaux et que le seuil de compétence de tous les professionnels augmente. Se mettre à hauteur d'enfant, c'est arriver à se représenter aussi le stress, l'angoisse d'un enfant qui ne sait pas ce que devient la procédure. Pas seulement les enfants, les adultes aussi bien d'ailleurs. Les professionnels savent que toute la journée, ils font beaucoup de travail, mais les personnes, elles, attendent des informations sur leur affaire, sur leur souffrance, sur ce qui les concerne, elles. Et un enfant a besoin d'un calendrier pour comprendre, pour savoir, pour dormir.
Là, cette maman nous dit, on m'a dit, si tout va bien, t'auras une réponse dans 6 mois. Et elle craint que dans 6 mois, on lui dise, écoutez, il n'y a pas assez de preuves, donc malheureusement, c'est classé sans suite. J'imagine que c'est un drame de plus quand on entend ça, classé sans suite.
Oui, ça, beaucoup de personnes nous le disent, sans suite, non-lieu. Ces mots de la procédure, ces mots des professionnels qui sont indolores pour les professionnels, mais qui ne sont pas indolores pour les premières personnes concernées, à commencer par la victime elle-même. Non-lieu. Christine Angot le dit très bien, d'ailleurs, notamment dans Le Voyage dans l'Est, hein, qu'elle n'aurait pas pu supporter que ces mots s'appliquent à sa propre histoire. Non-lieu, au sens de « ça n'a pas eu lieu ». Le professionnel entend autre chose. Il entend « il n'y a pas lieu à poursuite pénale ». Mais il faut se mettre à hauteur d'enfant et à hauteur de la victime, qui est la première personne concernée par la violence qu'elle a subie.
Cette maman, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « je suis un peu perdue, je ne sais pas si je dois continuer d'en parler à ma fille ». Alors, vous n'êtes ni psychologue, ni l'un, ni l'autre, mais quel conseil vous lui donneriez à elle, et en règle générale, aux gens qui nous écoutent, qui sont concernés par ça ? Est-ce qu'il faut continuer d'en parler régulièrement ? On ne va pas non plus en faire un totem, mais pas un tabou. C'est quoi le juste milieu, Camille Kouchner ?
C'est, je vais vous répondre comme pour les injonctions, c'est-à-dire que je sais pas, c'est tellement des chemins individuels. On peut parler du viol, on peut parler de l'inceste comme une catégorie. En réalité, il y a plusieurs viols, il y a pas le viol et il y a plusieurs incestes, il y a pas l'inceste. Et donc, en fonction de l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure, quel est l'équilibre de la famille, comment on se parle dans la famille, etc. C'est vraiment très très voilà. En revanche, être absolument à l'affût de ce que pourrait manifester l'enfant, ça me paraît être un devoir. Mais bon, je sais pas donner de conseils, moi. Je pense qu'on fait tellement tous comme on peut que... Ouais. Bon.
Le meilleur conseil, c'est faites comme vous pouvez. Et la moindre perche tendue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de votre fille, il faut savoir la saisir.
C'est-à-dire que dans ces affaires-là, on nage dans la culpabilité quand même. Toute la famille nage dans la culpabilité, donc on va pas en rajouter. Voilà, en disant tu aurais dû faire ça. Non, c'est voilà, il n'y a pas de tu aurais dû faire ça. Moi, je donne pas ces, je peux pas indiquer une voie. Je dis, allons sur le chemin ensemble, mais je sais pas comment il faut faire exactement.
Édouard Durand, même question, sans dire aux gens comment il faut faire, mais bon, vous aussi, quand vous êtes confronté à ce genre de situation, c'est quoi le premier conseil que vous pouvez donner?
Il s'agit d'une procédure pénale judiciaire, être soutenu, accompagné par un avocat. Par une association, c'est important, ça aide, ne pas être seul, c'est un soutien. Ce qui ressort des nombreux témoignages que nous avons reçus aussi, c'est combien les traumatismes générés par la violence sexuelle ont des conséquences graves et longtemps dans la vie, et que avoir un soutien psychologique, ça aide aussi. Donc c'est peut-être une possibilité. Mmh. Je trouve que Camille Kouchner a raison de dire que c'est facile de donner des conseils. Mmh. C'est plus difficile d'y être confronté soi-même.
Alors, je me permets de vous poser la question, parce qu'elle-même me disait être preneuse de conseils au téléphone. Et alors, l'autre chose qu'elle m'a dit, et qui va choquer tout le monde, c'est que la personne, enfin, le mise en cause, a changé d'école, ce qu'on ne comprend pas forcément dans le passage qu'on vient d'entendre. Donc, il n'est heureusement plus avec cette petite fille. En revanche, il est dans une autre école des Hauts-de-Seine. On ne sait pas laquelle. Et ça, c'est insupportable. Bon, j'imagine que je prêche de convaincu, mais c'est insupportable d'imaginer ça.
Il faut renforcer notre exigence de protection, c'est une évidence. Dans la loi du 7 février 2022 sur la protection de l'enfant, il y a des dispositions précises sur le contrôle de la sélection et du recrutement des personnes qui travaillent avec des enfants. C'est une mesure de précaution importante. Il y a, c'est notamment le cas au ministère des Sports, tout un dispositif de protection administrative des enfants, y compris par des procédures administratives pour écarter des personnes qui sont mises en cause, qui est un modèle du genre. Donc il y a des pratiques professionnelles protectrices qui existent et il faut s'en inspirer.
Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Édouard Durand, je renvoie à la lecture de votre livre qui s'appelle « Défendre les enfants » publié au Seuil, où vous racontez... votre vie de combat sur ces sujets. Je pense qu'on l'a compris aujourd'hui. C'est plus qu'un travail, bien sûr, plus qu'une vocation, ça va bien au-delà. On recommande ce livre. Et puis, Camille Kouchner, La famille agrandie, on en a parlé. Oui, je crois qu'on en a parlé aujourd'hui dans ce podcast, qui vient de sortir en poche. Et donc, on peut évidemment toujours lire. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles qui, je l'espère, aura aidé certains et certaines d'entre vous. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cet épisode du podcast aux personnes que vous connaissez, que vous savez que ça pourrait aider. Bien sûr, n'hésitez pas, ce podcast est là pour ça, pour aider avant tout, pour faire de la prévention et aussi, bien sûr, pour aider et accompagner les victimes touchées par ces sujets. Merci infiniment encore à Camille Kouchner et au juge Édouard Durand d'avoir accepté de nous accorder ce temps. Épisode enregistré au sein de la CIVIS, la commission créée pour lutter contre l'inceste. La CIVIS qui se trouve, je précise, au sein du ministère de la Santé. C'est donc là où on a enregistré cet épisode. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que ça puisse se faire, notamment Alice Guéraud au sein de la CIVIS. Un grand merci à Alexandre Ferreira qui a réalisé cet épisode du podcast des maternelles, comme tous les autres d'ailleurs. Et merci aux équipes de 2P2L autour de Jérôme Caza et aux équipes de France Télévisions. Je rappelle que ce podcast est un podcast France Télévisions. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et puis, bien sûr, chaque matin sur France 2 avec Madame Agathe Le Caron. Salut tout le monde.